Vous écoutez Europe 1, il est 22h. Tout de suite, le journal, Isabelle Millet.
Adieu et merci, Monsieur Chirac.
Les mots de l'archevêque de Paris et les applaudissements de la foule à la sortie de l'église Saint-Sulpice. On va revivre ensemble dans ce journal les temps forts de cette journée d'hommage à Jacques Chirac, la cérémonie religieuse, la minute de silence et puis les obsèques au cimetière du Montparnasse et toujours, toujours l'émotion des Français.
Je tenais à l'honorer au sein de cette cérémonie religieuse, qu'on lui a dit au revoir et c'était très important.
Et on écoutera aussi l'hommage de l'ancien président américain Bill Clinton qui a fait le déplacement à Paris aujourd'hui. 4 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, Édouard Philippe s'est rendu sur place ce soir.
La qualité de l'air à Rouen n'est pas en cause. Les odeurs sont effectivement très dérangeantes, mais qu'elles ne sont pas nocives.
Le Premier ministre qui tente de rassurer alors que la vidéosurveillance et des témoins suggèrent que l'incendie a peut-être pris à l'extérieur de l'usine. Le SAMU mis en cause après le décès d'une femme de 60 ans à Mulhouse. Elle s'était plainte de douleurs à la poitrine, mais les secours ne se sont pas déplacés. Un gigantesque procès s'est ouvert aujourd'hui en Allemagne, celui d'un scandale dont on a beaucoup parlé, le Dieselgate. 500 000 d'automobilistes accusent Volkswagen de leur avoir vendu des véhicules présentés à tort comme peu polluants. Le temps demain, toujours frais dans le nord, un peu plus chaud au sud. Attention, une perturbation arrive ce soir sur les côtes bretonnes. Elle va traverser toute la France d'ouest en est et elle apportera beaucoup, beaucoup de pluie dès le lever du jour. Seule la côte d'Azur et la Corse seront épargnées. Ne manquez pas bien sûr les prévisions complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir le directeur général de PayPal pour l'Europe de l'Ouest, Damien Périlla. PayPal, bien sûr, c'est un service de paiement en ligne.
Europe 1.
Un dernier adieu, mais surtout une journée de communion qui restera dans l'histoire de la République. La France a rendu hommage aujourd'hui à Jacques Chirac. Vous avez pu vivre ces cérémonies en direct sur Europe 1. Certains se sont levés aux aurores pour saluer une dernière fois leur ancien président. Lors d'Autriche, tout a commencé aux Invalides tôt ce matin.
Aux Invalides, avec d'abord une cérémonie privée en présence de Bernadette Chirac qui, ensuite affaiblie, n'assistera pas à l'hommage officiel à l'église Saint-Sulpice. Après les honneurs militaires, puis une minute de silence, Emmanuel Macron s'est incliné devant la dépouille de Jacques Chirac. Puis le corbillard a traversé une partie de Paris, dont plusieurs lieux fréquentés par Jacques Chirac. L'Assemblée nationale ou encore le boulevard Saint-Germain devant la brasserie Lip. Toute l'équipe de la brasserie était sur le pas de la porte pour regarder passer le convoi. Ici, Jacques Chirac avait ses habitudes, a raconté un membre de l'équipe à notre reporter Maud Descamps.
Nous avons une table, c'est la table numéro 24, qui était très très souvent demandée. Je vais garder cette table dressée telle qu'elle, en mémoire de lui, parce que c'était quand même sa table. Ça va marquer la brasserie, ça va marquer son histoire. Je vais essayer de ne pas l'utiliser.
Et sous escorte, enveloppé du drapeau tricolore porté par ses anciens officiers de sécurité à l'Élysée, le cercueil de Jacques Chirac a ensuite remonté la nef de Saint-Sulpice au son du Requiem de Fauré, une œuvre au calme lumineux. Une quinzaine de minutes plus tard, Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris, a salué dans son homélie un homme chaleureux qui était aussi à l'aise dans les salons de l'Élysée qu'au salon de l'agriculture.
Le président Jacques Chirac avait axé sa campagne de 1995 sur le thème de la fracture sociale, portant ainsi son regard sur ceux qui restent sur le bord de la route. Un des rôles de l'Église est de construire la fraternité.
Et à l'Église, dans les premiers rangs, se côtoient Vladimir Poutine, le président italien Mattarella ou encore l'ancien président américain Bill Clinton. Et puis il y a eu ce moment qui a suspendu le temps, le pianiste Daniel Barenboim assis devant un piano à queue noire situé à gauche du cercueil qui a joué un impromptu de Schubert, une des dernières pièces que le compositeur a écrite avant sa mort. À l'extérieur, la foule suit la cérémonie religieuse sur des écran géant, les bruits de la ville ne semblent pas avoir de prise. Il y a dehors un silence implacable et c'est une foule très croyante que l'on voit, suivant pas à pas la liturgie. Certains ont un chapelet à la main et le livret qui leur a été distribué.
Je tenais à l'honorer au sein de cette cérémonie religieuse qui représente beaucoup pour moi. Et voilà qu'on lui a dit au revoir et c'était très important.
Et même le fait qu'on soit sur le parvis, on ressent les choses comme si on était à l'intérieur de l'église. Mon fils a raté son évaluation d'histoire ce matin. Je lui ai dit tu vas rattraper, mais ce qui est le plus important c'est que tu vives ce moment historique.
Et une foule qui a même fredonné une discrète marseillaise au moment du départ du cercueil de Jacques Chirac pour le cimetière du Montparnasse.
Un récit signé Lord d'Autriche, Jacques Chirac, elle vient nous le dire, a donc été inhumé ensuite à l'abri des regards, dans l'intimité la plus stricte, dans le cimetière du Montparnasse, Maud Descamps.
Eh bien oui, derrière les hauts murs, une cérémonie réservée aux plus proches et à la famille de Jacques Chirac. Malgré l'accès interdit au public, il y avait plus de 200 personnes rassemblées sur le trottoir face à l'entrée pour applaudir le convoi à son passage. Certains s'étaient mis debout même pour mieux l'apercevoir. Certains sont restés très longtemps jusqu'à tard ce soir pour signer des registres de condoléances. Marie-Christine a été particulièrement émue lorsque le convoi s'est engagé dans l'allée principale du cimetière.
Oh, le plus dur, c'est quand la porte du cimetière s'est refermée. Là, c'est fini, ça y est. C'est très émouvant, très très émouvant. C'est vraiment un adieu définitif. Ça secoue un petit peu quand même. Hein. Ouais. Cette fois-ci, on ne le verra plus.
Jacques Chirac, donc, qui repose désormais aux côtés de sa fille Laurence, mais aussi à quelques pas d'une autre personnalité très appréciée des Français, le chanteur Serge Gainsbourg. Et juste après la fin de cette cérémonie, une dame me glissait ces quelques mots à l'oreille. Eh bien voilà deux séducteurs qui ont de quoi discuter pour l'éternité.
Maud Descamps qui était au cimetière du Montparnasse à Paris. Cette journée d'hommage a également été marquée, vous le savez, par une minute de silence à 15h cet après-midi dans les administrations et les établissements scolaires. Virginie Riva, vous l'avez suivi, cette minute de silence dans un collège parisien.
Oui, au collège Gustave Flaubert, j'ai pu assister à la minute de silence qui a débuté juste après l'appel au micro de la proviseure que vous pouvez entendre. Une minute de silence qui avait ici une résonance particulière dans cette classe de 4e. Le matin même, Monsieur Chaban, le professeur d'histoire-géographie, suivant les encouragements du Premier ministre, a consacré une heure de son cours d'enseignement moral et civique à la mémoire de Jacques Chirac.
Ce lundi 30 septembre 2019 est une journée tout à fait particulière. D'accord ? Les citoyens d'aujourd'hui et ceux de demain, les citoyennes bien sûr aussi, hein, ce sera vous. D'accord ? Et on se doit de connaître l'action, la politique menée par cet homme d'État que fut Jacques Chirac. Que l'on soit d'accord ou non avec son action.
Voilà, une première partie de son cours plus théorique, puis direction la salle d'informatique où les élèves ont dû se mettre en groupe et traiter chacun un aspect de la vie de Jacques Chirac grâce à des ressources mises en ligne. Lucie et son groupe ont choisi de travailler sur le parcours politique de Jacques Chirac.
Pour l'instant, on a écrit qu'il a passé 12 années à la tête de l'État, que la préservation de la planète était son dernier combat.
Moi, je pense qu'on peut aussi prendre l'histoire des arts parce qu'il a créé le musée des quais Branly. Et genre, c'est important quand même.
Le discours sur la rafle du Vel'd'Hiv, personne n'en avait entendu parler. C'est un hommage, demande Jeanne. Monsieur Chaban a expliqué que c'était bien davantage la première reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs.
Virginie Riva qui a vécu donc cette journée et cette minute de silence aux côtés de collégiens parisiens. On le disait, 80 personnalités étrangères ont participé à cette cérémonie en l'église Saint-Sulpice et notamment l'ancien président américain Bill Clinton qui a tenu à être présent eu égard aux liens étroits qu'il entretenait avec Jacques Chirac.
C'était un formidable représentant pour les Français, toujours positif, toujours très protecteur des intérêts français. Il voulait réunir les gens plutôt que les diviser. Regardez qui est venu aujourd'hui, il réunissait les gens. On n'était pas toujours d'accord politiquement, mais il va me manquer. Je l'aimais beaucoup et il va me manquer.
Bill Clinton cet après-midi à Paris après la cérémonie solennelle en hommage à Jacques Chirac. Il était au micro Europe 1 de Jean-Rémy Baudot. Et cet hommage, il s'est encore poursuivi cette fois en Corrèze, région chère à l'ancien président. À Tulle, une messe était célébrée ce soir, Stéphane Place.
Près de 600 personnes ont assisté à cette messe solennelle ce soir ici en la cathédrale de Tulle. La cérémonie a duré environ une heure et demie. Venus de tout le département, ces Corréziens tenaient à être présents.
Moi, si j'avais pu aller ce week-end, j'aurais été à Paris. Jamais on l'oubliera.
Moi, Chirac, je l'aimais bien parce que c'est un bon Corrézien. Il a fait beaucoup de choses pour la Corrèze. Ça me touche énormément.
Il était très attaché aux Corréziens et les Corréziens étaient très attachés à lui. C'est un hommage particulier réservé aux Corréziens.
Et dans l'assistance, beaucoup d'élus locaux, de droite comme de gauche, Bernard Combes et le maire socialiste de Tulle.
On a envie, les uns et les autres, d'être présents pour leur témoigner de l'affection, de l'amitié, bien au-delà des sensibilités différentes qui ne comptent pas. Jacques Chirac, il a quand même fait l'autoroute A20 qui nous a largement désenclavés. Il a fait l'autoroute A89 qui passe par la Corrèze. Il a fait beaucoup pour l'emploi à travers la fondation Jacques Chirac. Qui allait le Corrézien, peut-être pas tous, mais beaucoup, y compris de gauche, qui allait le voir pour trouver un poste au petit ou à la petite, trouver un logement à Paris. Il le faisait sans regarder, bien sûr, l'étiquette politique.
Et le week-end prochain, un nouvel hommage dont on ne connaît pas encore le déroulement précis rassemblera les Corréziens et la famille Chirac dans le département. Tulle, Stéphane Place, Europe 1.
Europe 1, le journal de la nuit.
Il est 22h10, merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal. Et le Premier ministre était à Rouen ce soir, alors que la population se pose encore beaucoup de questions après l'incendie de l'usine Lubrizol. Édouard Philippe venu avant tout pour rassurer.
Europe 1, le journal de la nuit.
Je suis parfaitement conscient de cette inquiétude. Et encore une fois, ce que je veux dire, c'est que l'ensemble des analyses qui sont en notre disposition, à notre disposition, nous permet de dire que la qualité de l'air à Rouen n'est pas en cause. Que les odeurs que nous sentons, et que nous sentons aujourd'hui au moment où je vous parle, et que l'on sent ailleurs dans la métropole rouennaise et parfois au-delà, sont effectivement très dérangeantes, très pénibles à supporter, qu'elles peuvent entraîner en effet un certain nombre de réactions, mais qu'elles ne sont pas nocives. C'est ce que me disent les scientifiques, c'est ce que me disent les techniciens, et j'ai tendance à écouter ce que me disent les scientifiques et les techniciens lorsqu'il s'agit et de sécurité et de gestion des risques.
Le Premier ministre, ce soir au micro Europe 1 d'Élise Dangean à Rouen, alors que l'on a appris que l'usine Lubrizol avait décidé de déposer plainte contre X pour dégradation involontaire de biens. Sa direction affirme en effet, vidéosurveillance et témoins à l'appui, que l'origine du sinistre est peut-être extérieure à Lubrizol. En tout cas, les cours ont repris aujourd'hui dans les établissements scolaires, mais l'inquiétude est toujours palpable, même si les écoles ont été évidemment nettoyées tout ce week-end. Une vingtaine d'enseignants ont décidé d'exercer leur droit de retrait dans 3 collèges. Ils invoquent des odeurs persistantes et affirment que plusieurs élèves souffrent de maux de tête ou de nausées, voire de vomissements. L'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, condamné à 1 mois de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende pour violation du secret professionnel. Il était accusé d'avoir transmis au député Thierry Solaire des éléments de l'enquête qui le visaient. Fini la course au certificat médical. Chaque année, à chaque rentrée scolaire, l'obligation de fournir ce certificat pour la pratique sportive d'un enfant sera en effet supprimée et remplacée par une simple attestation remplie par les parents. Et ça entre dans le cadre du projet de budget de la Sécu pour 2020 qui a été dévoilé aujourd'hui. Ça concerne quand même plus de 6 millions de mineurs licenciés dans des clubs ou des fédérations sportives. À Mulhouse, une information judiciaire ouverte pour non-assistance à personne en danger à la suite du décès d'une femme de 60 ans. C'était en juin dernier. Arthur Nbaché, ce que l'on sait, c'est qu'elle a eu le SAMU au téléphone, mais que les secours ne se sont pas déplacés.
Alors la victime a d'abord eu au téléphone un régulateur du SAMU qui a transféré l'appel à un médecin urgentiste. Ensemble, ils évoquent les difficultés de la victime à respirer, ses douleurs dans la cage thoracique. Et voilà ce que répond le médecin d'après la procureure de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot.
Elle lui dit, écoutez madame, vous avez pris des médicaments, attendez qu'il fasse effet. Donc restez bien allongée, attendez qu'il fasse effet et éventuellement rappelez-nous. Alors, dysfonctionnement ou pas dysfonctionnement, en tout cas, comment dire, de façon formelle, il n'y a pas eu de dysfonctionnement au sens réel du terme. J'allais dire, si on peut se souvenir de l'affaire de Strasbourg, un opérateur du SAMU qui passe immédiatement un médecin. Voilà. Donc il n'apparaît pas dans un premier temps qu'il puisse y avoir un dysfonctionnement.
Alors c'est vrai que l'hôpital de Mulhouse traverse en ce moment de manière très très vive ce qu'on appelle la crise des urgences, pas assez de moyens, pas assez de médecins, mais au moment des faits en juin, nous a dit la directrice de l'hôpital tout à l'heure, il n'y avait pas encore ces problèmes d'effectifs. Donc ça, plus le fait que toute la procédure du 15 semble avoir été respectée, fait que les enquêteurs privilégient apparemment ce soir l'hypothèse de l'erreur humaine dans le diagnostic de ce médecin du SAMU.
Merci Arthur Mbaché, correspondant d'Europe 1 dans l'Est. Plus aucun avion d'XL Airways ne décolle depuis aujourd'hui et ce jusqu'à jeudi inclus. La compagnie est en redressement judiciaire. Elle saura après-demain, mercredi, si un investisseur sérieux peut venir à son secours. En Allemagne, l'ouverture du méga procès du Dieselgate. Volkswagen doit s'expliquer sur ses moteurs truqués, scandale à tiroir. Procès qui devrait s'étaler sur plusieurs années. Hélène Kohl, on vous retrouve. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Allemagne. Hélène, 500 000 de clients demandent à la justice de reconnaître qu'ils ont subi un préjudice.
Oui, l'association de consommateurs qui représente tous ces automobilistes floués accuse le groupe Volkswagen d'avoir délibérément nuit à ses clients en leur vendant des véhicules présentés comme peu polluants, alors qu'en réalité, c'est juste que les données des tests anti-pollution étaient manipulées. Au total, 11 millions de véhicules ont été équipés avec ce logiciel qui truquait les moteurs. À Brunswick, ce matin, devant la salle des congrès transformée en tribunal pour accueillir ce procès monstre, on a bien entendu la colère de ces propriétaires de voitures. Certains demandent qu'on leur rembourse leurs véhicules. Les 3 juges ont d'abord 56 points à trancher et c'est juridiquement très épineux car comme le rappelle une avocate de Volkswagen, il n'y a pas de fondement à cette requête car il n'y a pas de dommage selon elle Aujourd'hui encore, des centaines de milliers de ces véhicules sont utilisés sur les routes du pays, rappelle-t-elle. Alors si le préjudice est reconnu, dans un second temps, les clients pourront ouvrir individuellement des procédures pour obtenir compensation. Mais on n'en est pas là, ce procès devrait durer au moins 3 ans. L'affaire du Dieselgate, qui a éclaté il y a 4 ans maintenant, colle donc plus que jamais à Volkswagen, qui a déjà dû débourser plus de 30 milliards d'euros en frais juridiques, en amende et en dédommagement, pour l'instant essentiellement aux États-Unis.
Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 en Allemagne. Le gouvernement grec annonce qu'il veut renvoyer en Turquie quelque 10 000 migrants d'ici la fin 2020, après un conseil des ministres convoqué en urgence au lendemain d'un incendie meurtrier et d'émeutes dans un camp de l'île de Lesbos. La FIFA ordonne à Cardiff de sortir le carnet de chèques. Le club gallois va devoir payer au FC Nantes 6 des 17 millions d'euros du transfert du joueur argentin Emiliano Sala, décédé le 21 janvier dans le crash de l'avion qui le transportait justement vers son nouveau club. Transfert qui avait été validé par les autorités du foot avant l'accident. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Anissa Haddadi. Et pour demain, Anissa, vous nous annoncez un temps instable.
Oui, c'est ça Isabelle, un temps très instable et très agité demain à cause d'une perturbation qui est arrivée hier en fin de journée par l'ouest et qui va donc traverser demain tout le pays. Des Pays de la Loire aux Ardennes, en passant par la région parisienne, les pluies seront soutenues dès le lever du jour avec parfois même des orages localement forts. Sur le Cotentin, la Normandie, la Bretagne, le Nord, là il pleut dès le lever du jour avec des averses accompagnées de vents d'ouest à souffle fort hein, demain matin, 70 km/h. Et c'est sur le quart sud-est, les Alpes, la Côte d'Azur, la région lyonnaise et le Languedoc-Roussillon, c'est là que la journée sera la plus ensoleillée. Au fil des heures, le ciel va se couvrir et du Languedoc-Roussillon à l'Alsace, en passant par le Jura, le Massif central, les Cévennes, là les orages arrivent en fin de journée avec même parfois des averses de grêle dans ces régions. Les températures, elles sont stationnaires, 8 à 17 degrés le matin, ça ne bouge pas trop non plus l'après-midi. Nous avons 18 à Cherbourg, 20 à Rennes et Paris, 22 à Nancy et Belfort, 23 à Clermont-Ferrand. Et ça grimpe au sud, hein, 26 à Marseille et Lyon et jusqu'à 29 à Avignon.
La météo signée Anissa Haddadi. Europe 1. Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com, juste avant l'invité d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le directeur général de PayPal pour l'Europe de l'Ouest. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Il est 22h18, merci d'écouter Europe 1. Et comme tous les soirs, on s'intéresse maintenant à la bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui retrouve le moral ce soir.
Oui, les indices avaient souffert vendredi, mais ça remonte. Le Dow Jones avance de 0,36%, 26 937 points. Le Nasdaq rebondit de 0,75%, 7 999 points. Les marchés se sont donc fait peur vendredi avec des rumeurs inquiétantes dans le très épineux conflit commercial avec Pékin. Ces rumeurs évoquaient une volonté de Washington d'exclure les entreprises chinoises des marchés boursiers américains. Alors la Maison-Blanche a démenti pendant le week-end. Ses responsables parlent ce soir de fake news, c'est le terme qu'ils emploient. Mm-hmm. Et les investisseurs, eux, eh bien, ils respirent un peu mieux. Les valeurs chinoises cotées à Wall Street qui avaient nettement reculé vendredi, elles remontent. Plus 1% pour le géant du e-commerce Alibaba, plus 1,6% pour Baidu, le Google chinois. On a aussi le géant Apple qui grimpe de 2,4%. Son PDG Tim Cook a évoqué un bon démarrage commercial des nouveaux modèles d'iPhone. L'euro est retombé aujourd'hui au plus bas depuis mai 2017. Il perd ce soir 0,3% et s'échange contre 1,09$ environ. Et puis forte baisse pour le pétrole, moins 3,3%, 54$ le baril WTI.
Et la semaine, Claire, démarre bien pour le marché parisien.
Oui, avec un CAC 40 qui se rapproche des 5700 points. Il gagne ce soir 0,66%, 5677 points. Les investisseurs ont suivi EDF aujourd'hui avec l'annonce de la fermeture de la plus vieille centrale nucléaire en France, la centrale de Fessenheim. L'arrêt est programmé pour 2020, un tout petit peu plus tôt que prévu. Et c'est surtout l'arrangement financier qui semble plaire au marché. Ce soir, EDF sera indemnisé par l'État à hauteur de 400 millions d'euros pour cette fermeture anticipée, avec éventuellement des versements supplémentaires. Et EDF avance donc de 1,9% ce soir.
Et on rappelle que la France veut réduire à 50% la part du nucléaire dans sa production électrique. Saint-Gobain, Claire, fait aussi partie des plus fortes hausses de cette séance.
Plus 2,2% pour Saint-Gobain qui a atteint son objectif de cession annoncé pour fin 2019. Plus de 3 milliards d'euros de cession au chiffre d'affaires réalisé ou signé à ce jour. Les principales bourses européennes ont terminé en hausse avec une exception, Londres qui perd 0,2%, mais Francfort gagne 0,4%, Madrid plus 0,7%, Milan plus 0,4% et à Paris, le CAC 40 gagne encore 0,8%, 5 677 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Claire Lemaître de Boursier.com. Et c'est l'heure de l'invité éco. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir le directeur général de PayPal pour l'Europe de l'Ouest.
Bonsoir Damien Perilla.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général de PayPal pour l'Europe de l'Ouest. Alors PayPal, c'est bien évidemment le service de paiement en ligne. Vous venez d'atteindre les 10 millions de comptes actifs en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le commerce électronique bondit en France et que vous en profitez?
Il y a 40 millions de Français qui achètent en ligne. Donc il y a à peu près un quart qui utilise PayPal. Donc effectivement, l'achat en ligne est vraiment rentré dans les mœurs, dans le quotidien des Français. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est effectivement faciliter cette transition numérique en apportant des réponses avec notre solution de paiement, puis surtout aussi être un tiers de confiance. Et d'ailleurs, on fait partie des 10 marques les plus préférées des Français.
C'est vraiment entré dans le quotidien des Français, PayPal et le paiement comme ça en ligne?
Alors, le commerce en ligne, effectivement, c'est 10-15% de la dépense des ménages. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est un réflexe. Quand on achète sa musique, ses voyages, on va plutôt le faire sur Internet. Après, il y a beaucoup d'achats qui sont encore dans le monde physique. Et d'ailleurs, le monde physique ne va pas disparaître. Au contraire, c'est plutôt une synergie entre le monde physique et le monde numérique. Mais ce qui est vraiment important, c'est de se dire, effectivement, avec les terminaux mobiles, les smartphones, les objets connectés, c'est comment on va réinventer le commerce et finalement le paiement dans les années à venir.
Une société sans cash, c'est vraiment pour demain ?
Ça existe déjà dans certains pays, notamment l'Europe du Nord. Dans des pays comme l'Italie, on pousse à la facturation électronique. Donc effectivement, il y a une vraie volonté de faire disparaître les espèces dans l'économie.
Aujourd'hui, PayPal est utilisé par qui en France?
On connaît le bouton de paiement PayPal qu'on va retrouver sur des grands sites de e-commerce, les sites leaders en France. Et puis aussi, on est beaucoup utilisé par des petites et des moyennes entreprises qui vont vendre sur Internet pour développer leur chiffre d'affaires, ou autrement des particuliers qui vont vendre au travers de places de marché. Et puis aussi, PayPal, c'est des services d'envoi d'argent de personne à personne en France, mais aussi c'est de l'envoi d'argent à l'étranger.
Ce que vous êtes en train de développer, ça existait déjà
Exactement.
Un petit peu dans le monde, mais la France vient de le faire là depuis quelques semaines.
On l'a fait, par exemple, en France, on a plus de 3 millions de personnes qui utilisent notre service d'envoi d'argent. Donc c'est une alternative au paiement en espèces, aussi au paiement par chèque. La France est la championne d'Europe du paiement par chèque.
Alors vous êtes malgré tout de plus en plus concurrencé par des petites sociétés qui s'installent sur un des créneaux dont vous venez nous parler. Par exemple, l'échange d'argent, on peut citer Lydia qui marche de plus en plus. Vous êtes aussi là depuis un peu plus récemment, mais sur les cagnottes en ligne. Vous avez de gros acteurs en France qui sont là. Est-ce que finalement vous n'êtes pas un petit peu le vieux que tous les petits jeunes sont en train d'attaquer? Parce que PayPal a 20 ans quand même.
Je pense qu'on peut revendiquer le terme d'être la première fintech, ce terme qui parle de ces sociétés technologiques qui réinventent les services financiers. Moi, je pense que la concurrence est saine. On est dans un marché, comme vous le disiez précédemment, qui est en forte explosion. Donc, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et je pense que c'est aussi sain pour les consommateurs. Ce qu'on essaye de faire, c'est de le faire aussi à la taille du continent européen, à l'échelle aussi mondiale, parce qu'on est présent dans plus de 200 marchés et territoires. Et pour vous donner un ordre d'idée, donc la France, 10 millions de clients, on en a un peu plus de 280 millions de par le monde. Donc la France, c'est important, c'est notre quatrième marché au niveau mondial.
Ce qui est aussi intéressant pour vous, c'est le fait d'être là depuis 20 ans, le fait d'être très connu. Vous parliez tout à l'heure de votre notoriété. Quand on paye en ligne, l'élément confiance est l'élément sûrement le plus important. Est-ce que c'est le cas également chez vous, que votre marque aujourd'hui soit reconnue?
Moi, j'aime rappeler que s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de commerce. Donc effectivement, on doit faire ces propositions technologiques avec toujours plus de mobilité, d'objets connectés. Mais à la fin aussi, on doit rassurer. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si je ne reçois pas mon achat, si l'achat n'est pas conforme avec ce que j'ai commandé en ligne? Et donc, c'est toute cette proposition aussi de sécurité et de protection des acheteurs, mais aussi des vendeurs, parce que ça peut être aussi risqué si on est commerçant de vendre en ligne.
Vous pouvez là nous assurer, ce soir sur Europe 1, ça ne nous arrivera pas?
Notre travail, pour vous donner un ordre d'idée, PayPal, chaque jour, c'est plus de 25 millions de transactions. Donc, c'est vraiment le cœur de notre métier de faire en sorte que tout se passe bien. Et effectivement, contrairement à d'autres acteurs que vous avez pu citer, on a une différence, et nous sommes un acteur mondial. Et aussi, nous opérons sur l'ensemble de cette chaîne de valeur du commerce en ligne. Donc en fait, on a accès à beaucoup plus d'informations pour faire en sorte que notre système soit sécurisé.
Pour aussi se dire, plus on est gros, plus on est potentiellement la cible.
Ouais, bien sûr, Mais n'importe quelle entreprise qui va vendre en ligne va être une cible. Mais c'est effectivement comment on fait en sorte que ça n'arrive pas. Mmh. Et si malheureusement, en tant qu'acheteur, vous êtes victime d'une arnaque ou d'une fraude, comment on peut aussi vous protéger avec les assurances qu'on peut proposer au travers de notre service?
On n'a peut-être pas parlé de votre principal concurrent à venir. Il s'appelle Facebook parce qu'il va lancer sa propre monnaie. Facebook va lancer la Libra, sa monnaie virtuelle. C'est lui votre gros concurrent de demain?
Vous savez, il y a vraiment, je trouve, derrière toutes ces initiatives, cette notion comment, avec la technologie, on peut démocratiser les services financiers et les rendre plus accessibles. Il y a pratiquement 20% de la population mondiale qui est pas bancarisée ou très peu bancarisée. Donc au travers de la technologie, c'est aussi comment on fait que nos services soient plus accessibles à des populations dans nos pays, mais aussi dans le reste du monde, soit puissent avoir accès aux services bancaires de demain.
Donc ce que vous voulez dire, c'est que quand un gros acteur comme Facebook arrive avec de grosses ambitions, finalement, ça sert tout le marché. C'est ça que vous voulez dire?
Oui, parce qu'on a un ennemi commun, ça va être la mauvaise expérience utilisateur, ça va être les espèces, ça va être le chèque, c'est-à-dire finalement toutes ces expériences de paiement qui, on pense, n'ont plus lieu d'être dans cette époque qui est très numérisée avec les smartphones, les objets connectés.
Et vous payez bien tous vos impôts en France?
Et partout où on opère dans le monde. Mais effectivement, nous sommes une société...
Réellement
de...
Oui. Vous êtes basé en France, vous n'avez pas de succursale où vous renvoyez les...
Parce que, vous savez, on est une plateforme mondiale qui opère dans un marché européen des paiements qui est unique. Donc voilà, on respecte en fait les lois du pays dans lesquels on opère, dans tous les pays du monde où nous opérons.
Damien Pereira, directeur général de PayPal pour l'Europe de l'Ouest, était notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.
Merci à vous et à demain, Emmanuel Duteil. Et dans un instant, jette un œil sur les unes de vos quotidiens. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Jacques Chirac n'a pas raté ses adieux avec les Français, écrit Laurent Baudin dans le journal L'Alsace. De l'ouverture de l'Élysée au soir de sa mort, aux applaudissements qui ont marqué la sortie du cercueil de l'église Saint-Sulpice ce lundi à Paris, les obsèques de l'ancien chef de l'État ont été marquées du sceau de la solennité qui sied aux fonctions qui furent les siennes, mais aussi de la proximité qui caractérisait l'homme. Plus que l'Union nationale, la mort de l'ancien président a été l'occasion d'une communion populaire comme la France en connaît peu. Le temps du deuil, la République a même renfilé les atours de la monarchie. Un roi n'aurait pas eu plus d'égards. Le fait est d'autant plus marquant que Jacques Chirac, du temps de l'action politique, n'a jamais fait l'unanimité. Ils sont venus, ils étaient tous là, écrit pour sa part Florence Chédotal dans le journal La Montagne, comme le dernier soubresaut d'un XXe siècle désormais englouti d'une diplomatie gaulienne et d'une amitié franco-russe qui est déjà loin d'une certaine idée de la France. Jacques Chirac emporte avec lui une époque en clair-obscur. On raconte que le soleil de la France a désormais pâli. Mais les Français sont étonnants, si prompts à couper la tête de leur roi en exercice pour prendre en main leur destin, mais si passionnés par le passé, la grandeur et tentés par les rituels d'une monarchie républicaine, la France du XXIe siècle se cherche encore. Le Figaro, lui, a choisi une très sobre, la photo du cercueil de l'ancien président dans la cour des Invalides, et ce titre, le dernier hommage. Autre sujet, Rouen, c'est politique qui joue avec le feu, titre pour sa part le journal L'Opinion. Au risque de flirter avec le complotisme, des élus n'hésitent plus à instrumentaliser les doutes et les inquiétudes de la population après l'incendie du site chimique de Lubrizol. Et puis de Mao Axi, l'emprise du milieu, titre Libération, parade militaire, festivité grandiose. Aux prises avec la crise à Hong Kong, Pékin étale sa puissance pour célébrer les 70 ans de la République populaire de Chine. Le président Xi Jinping va profiter de ce 1er octobre, jour de fête nationale, sous haute surveillance pour exhiber sa force militaire à la face du monde. La photo du président chinois qui est également à la une des Échos qui titre « L'anniversaire contrarié de la Chine communiste ». Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écho d'Europe 1 en compagnie d'Olivier Delacroix pour votre libre antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
Et très belle émission à vous, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.